Chapitre 32. La veille, en rentrant à Saint-Prix, Raphaël avait longuement raconté son entretien avec son directeur, ce qui avait beaucoup amusé, ce qui avait émerveillé Roger. « Quelle femme de tête tu es !» disait-il. Ce soir-là, en rentrant, elle raconta tout aussi longuement la visite de Poupardin, car il était dans ses habitudes de tout dire, au moins en arrangeant les choses et en leur donnant la tournure qui convenait. Tant qu'il avait eu sa maîtresse près de lui, Roger n'avait pas eu le temps de trouver la campagne ennuyeuse ou monotone. Ils étaient ensemble, leurs heures étaient remplies. Peu lui importait que ce fût là ou ailleurs. Mais quand elle le quitta le matin pour ne rentrer que le soir, les choses changèrent. Les heures ne furent plus remplies. Vides au contraire, et terriblement longues. Il eût été chez des amis ou dans ses terres, à Naurouze, à Varages, il eût chassé, monté à cheval, visité ses voisins. Mais à Saint-Prix, que faire? Il ne pouvait pas chasser, il ne pouvait pas davantage visiter ses voisins, il ne pouvait plus se promener dans les bois dont les moindres sentiers lui étaient connus. 6 ou 7 heures de rêverie, c'est bien long, surtout quand toutes les rêveries auxquelles on se laisse entraîner ne sont pas agréables. Et parmi les pensées qui traversaient son esprit lorsqu'il restait ainsi seul, il y en avait de pénibles. Une entre autres qui revenait, qui s'imposait, quoi qu'il voulût l'écarter, car chaque soir en rentrant, Raphaël, par un mot, toujours le même, la provoquait. « J'ai encore vu Poupardin. Il n'y a pas moyen de s'en débarrasser !» Il ne voulait pas montrer de jalousie et il restait assez maître de sa volonté pour n'en point laisser paraître en sa présence. Mais lorsqu'elle était partie et qu'il avait 6 heures à l'attendre, ce mot, avec toutes les pensées qu'il pouvait engendrer, lui revenait. Alors 6 heures étaient éternelles. Que de questions! Si parfois elle était en retard 1 heure ou 2, ce qui se produisait assez souvent, que d'angoisse! Était-ce la répétition seule qui l'a retardée? Était-ce... L'exaspération devenait trop vive et, à son tour, il s'en allait à Paris passer quelques heures avec ses anciens amis qui ne manquaient jamais de le plaisanter sur sa disparition et sa réclusion. Les difficultés et les ennuis de la vie à Saint-Prix, compliqués des voyages à Paris, augmentèrent. Les compagnons d'Ulysse avaient été montés avec cette activité dévorante qu'on ne rencontre que dans les théâtres menacés de la faillite, quand les comédiens ont intérêt à empêcher cette faillite, et comme la pièce en représentation ne faisait pas un sou de recette, on l'avait abandonnée pour répéter le soir. De 11 heures du matin à minuit, les comédiens devaient être au théâtre. La première fois, Raphaël put se sauver assez tôt pour prendre encore le train de 12h30. Mais ce fut à grand-peine qu'elle arriva. Aussi déclara-t-elle en rentrant qu'elle coucherait le lendemain à Paris, chez elle, rue Drouot. C'était seulement pour qu'il ne fût pas exposé à attendre, à s'exaspérer. D'ailleurs, il ne s'agissait que de quelques nuits. La pièce était prête et sans les auteurs qui faisaient leur tête, on pourrait la jouer. Mais ils voulaient beaucoup de relâche parce que cela leur donnait de l'importance. Il ne répliqua rien, et quand le matin elle voulut qu'il lui promît d'être bien sage, il lui fit toutes les promesses qu'elle exigea. Il aurait confiance, il ne s'inquiéterait pas, il penserait combien elle l'aimait. Mais lorsqu'elle fut partie, il s'en alla derrière elle à Paris, et vers minuit, après avoir passé sa soirée au club où il se montra désagréable et impatient, il se fit conduire devant l'entrée des artistes du théâtre de l'Opérette. 2 coupés étaient déjà arrêtés devant cette entrée et, aux lumières que lançaient les lanternes d'argent, Roger reconnut de loin que voitures, chevaux et cochers étaient aussi irréprochables de tenue les uns que les autres. L'un était le coupé de Poupardin, l'autre celui de Balbine, sans doute. Vivement, Roger sauta à terre sans trop savoir ce qu'il faisait et s'approcha des voitures. Elles étaient vides. Poupardin, sans doute, était entré dans le théâtre. Roger, qui ne jouissait pas de la notoriété et des faveurs acquises dans les théâtres par Poupardin, n'essaya même pas de franchir le seuil de l'entrée. D'ailleurs, il n'était pas dans son plan d'aller chercher Raphaël jusque sur la scène et de l'enlever triomphalement en vertu de ses droits. Il remonta dans son coupé et, ayant baissé la glace du côté du théâtre, il attendit. Quand elle paraîtrait, il serait temps de se montrer. Les minutes s'écoulèrent, personne ne sortait. Enfin, il se fit un brouhaha, on entendit une confusion de voix et de cris. Quelques personnes commencèrent à sortir à la file, rapidement, les hommes, le collet du paletot retroussé jusqu'aux oreilles, les femmes tassées dans des châles et des manteaux, regardant ces voitures. De nouveau, Roger descendit et se plaça devant la portière faisant face au théâtre. Il n'eut pas longtemps à attendre. Bientôt, Raphaël parut, suivi de Poupardin, qui lui parlait par-dessus l'épaule. En apercevant Roger, elle accourut à lui, sans avoir eu un moment d'hésitation ou d'embarras. « Toi ici ? » dit-elle en lui prenant les deux mains. « Je viens te chercher. » Poupardin, un moment interloqué, s'était décidé à faire deux pas vers Roger et à lui tendre la main. « En voilà une surprise, » dit-il. « Pour moi, agréable, » dit Roger en souriant. « Et pour moi, donc ?» Il s'était remis. « J'avais proposé à madame de la reconduire chez elle, » dit-il. « Merci, » répondit Roger, « je l'emmène chez moi. Au revoir. » Une explication était nécessaire. Elle eut lieu le lendemain matin, et ce fut Raphaël qui l'entama. « Il est bien certain, » dit-elle, « qu'il faut renoncer à Saint-Prix. J'aime mieux prendre les devants et te le dire moi-même, sans attendre que tu m'en parles. Il me semble que cela me sera moins cruel. Une idée de femme. Nous sommes si faibles. Les compagnons d'Ulysse vont tomber à plat. C'est idiot d'un bout à l'autre. Pas de mots, pas de situation, pas d'effet pour les comédiens. Ça va être une chute fameuse. Il va falloir monter autre chose à la hâte, et il paraît que je serai de cette machine-là. Les répétitions vont donc recommencer. Du matin au soir, je serai prise au théâtre. Je ne veux pas que tu restes seule à Saint-Prix à t'ennuyer. Au moins, en restant à Paris, nous pourrons nous voir à l'heure du dîner. Il faut donc rentrer à Paris. Eh bien, rentrons à Paris. Alors, veux-tu me laisser choisir moi-même l'appartement que je dois habiter ? Bien volontiers. Choisis ce que tu voudras, où tu voudras. À l'avance, j'étais bien certaine que ce serait ta réponse. Et si j'ai tant tardé à te faire ma demande, c'est que je dois t'expliquer ce qui l'inspire. N'explique rien. Il le faut. Tu sais que j'ai ma mère que j'aime tendrement. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai aussi mon père. Un père naturel, mais enfin mon père. Alors que je n'étais qu'une petite fille et que je voyais ma mère peiner pour que nous ne mourions pas de faim, je lui disais « Quand je serai grande et que je serai riche, nous demeurerons ensemble pour que tu n'aies plus à souffrir. » Chaque jour en grandissant, je lui ai répété cela. « Me voici grande et si je ne suis pas riche, au moins je ne suis plus dans la misère. Je ne veux donc pas, au moment où je vais avoir une maison à moi, ne pas réaliser la promesse que j'ai faite à ma mère. » Roger ne répondit rien, mais il ne fut pas maître de retenir un mouvement. « Oh, ne crains rien, » dit-elle vivement. « Il n'est pas question que ma mère se place entre nous. Ma mère n'est pas de ton monde et je ne veux pas te l'imposer. C'est justement pour cela que cet appartement doit être choisi dans de certaines conditions, c'est-à-dire qu'il doit être en communication avec une ou deux pièces dans lesquelles ma mère s'installera et où je pourrai la voir facilement quand je serai seule. Elle sera chez elle, je serai chez moi. Mais je n'aurai qu'une porte à ouvrir pour la voir. Il ne s'agirait que de ma mère toute seule, rien ne serait plus facile, car la pauvre femme se contente de peu. Mais... » Elle hésita un court moment en se serrant plus fortement contre Roger. « Mais il s'agit aussi de mon père qui ne s'est pas occupé de moi quand j'étais petite et qui a abandonné ma mère, nous a retrouvés à mon retour de Russie. Il était dans la garde de Paris, il venait d'avoir sa retraite et, en apprenant qu'il avait une fille qui ne lui demandait rien, il s'est aperçu qu'il avait des entrailles de père. Cela n'est pas très beau, j'en conviens, mais enfin, il me témoigne maintenant beaucoup d'affection. » Des personnes pieuses sont intervenues entre lui et ma mère et l'ont amené à l'idée d'un mariage qui, pour ma pauvre mère, est une réhabilitation. Tu vois maintenant quelle est la situation et pourquoi j'hésitais à te l'expliquer, car il y a dans tout cela des choses que j'aurais voulu tenir cachées. Si j'ai parlé, c'est que tu dois tout savoir, non seulement pour le présent, mais encore pour l'avenir. Que dirais-tu si, en venant chez moi, tu ne me trouvais pas, et si tu me voyais arriver par une porte que tu ne devrais pas franchir? Car cette porte, tu comprends que ni toi ni eux, vous ne la franchirez jamais. Tu ne peux pas plus aller chez eux qu'ils ne peuvent venir chez moi. Mon père est un ancien soldat, il est décoré, il ne s'inquiétera pas de ce que fera sa fille la comédienne, comprenant que nous devons avoir une liberté entière. Mais il ne supporterait pas de voir que sa fille est notoirement la maîtresse du duc de Nauruse. Le soir même, elle avait trouvé l'appartement qu'il lui fallait, celui qui répondait aux exigences de la position. Le vestibule, la salle à manger, le salon, le boudoir, la chambre, le cabinet de toilette qui lui était nécessaire, puis, en communication avec le boudoir, par une porte qu'on pouvait cacher sous des tentures, trois pièces pour sa mère et son père. Il est vrai qu'à la rigueur, elle n'en avait besoin pour eux que de deux. Mais elle prit cependant la troisième, se la réservant pour son usage exclusif. Située tout à l'extrémité de l'appartement, avec une porte qui ouvrait directement sur l'escalier, cette pièce lui serait très commode pour assurer sa liberté. Elle se réfugierait là quand elle voudrait échapper à certaines visites, et elle n'admettrait près d'elle que ceux à qui elle dirait le secret de la porte de l'escalier. Quant à ceux qui ne connaîtraient pas ce secret, comment viendrait-il la déranger? Pour cela, il faudrait traverser l'appartement de ses parents.